RFI, 9h30 à Paris, 7h30 en temps universel. Et un nouveau journal avec vous, Martin Guèze.
Et à la une, Léon l'Africain, le nouveau pape Léon XIV, a sillonné le continent lorsqu'il était cardinal. Dernière visite en date au Kenya en décembre dernier. Il s'était aussi rendu en République démocratique du Congo et en Tanzanie. L'ONU s'inquiète, le PAM s'alarme, le programme alimentaire mondial particulièrement préoccupé et qui tire la sonnette d'alarme pour l'Afrique de l'Ouest et centrale. Le PAM qui craint une aggravation sévère de la faim. Plus de 50 millions de personnes pourraient ne pas manger à leur faim dans les semaines à venir. En cause, les coupes budgétaires de l'administration Donald Trump. Au Tchad, Idriss Youssouf Boy, condamné à 5 ans de prison, l'ancien directeur de cabinet du président Mahamat Idriss Déby, écroué pour corruption passive, même peine pour son accusateur Abou Hashim Bouder. En Afrique du Sud, African Parks en pleine tourmente, l'ONG de conservation de la nature basée à Johannesburg, accusée de violation des droits de l'homme au Congo-Brazzaville. Et puis à suivre, le journal des sports, l'Algérie se qualifie pour le prochain CHAN cet été en Ouganda, au Kenya et en Tanzanie. Et puis le Sénégal, en demi-finale du mondial de beach soccer, les Lions des Sables ont rendez-vous tout à l'heure avec la Biélorussie à Victoria, Seychelles. Une première messe en chaussures noires, c'est peut-être un détail, mais Léon XIV a dérogé à la tradition et aux chaussures rouges de rigueur pour suivre les pas de son prédécesseur François, prédécesseur qui avait fait des pays du Sud et notamment du continent africain sa priorité. Retirez vos mains de l'Afrique et de la RDC, avait notamment-il dit lors de sa venue à Kinshasa début 2023. Alors qu'en sera-t-il pour Léon XIV? Quel lien entretient-il avec le continent africain? Correspondance au Vatican, Eric Sénanc.
Le continent africain est loin d'être une terre inconnue pour le nouveau pape Léon XIV. Quand il occupait le rôle stratégique de préfet du dicastère pour les évêques au Vatican, le cardinal Prévost a effectué plusieurs visites dans des pays d'Afrique, la dernière au Kenya en décembre 2024, où il avait présidé la dédicace d'une chapelle non loin de Nairobi. Mais c'est surtout lorsqu'il était le prieur général de l'ordre de Saint-Augustin que ce missionnaire reconnu a multiplié les déplacements sur le continent, comme en République démocratique du Congo ou encore en Tanzanie. Sa filiation spirituelle avec l'ancien évêque d'Hippone, devenu père de l'Église, place aussi le nouveau chef de l'Église catholique en lien direct avec l'Afrique. Les prochains dossiers du nouveau souverain pontife, comme la lutte contre la pauvreté ou encore la crise migratoire, devraient aussi le rapprocher du continent dans la dynamique lancée par le pontificat de François. Ses premiers mots jeudi, appelant à la paix depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre, ne sont pas passés inaperçus dans plusieurs pays déchirés par les conflits. Une joie d'entendre les premières paroles du pape, un message qui devrait nous réconforter, a salué ainsi le secrétaire général de la CENCO, l'abbé Donatien Ncholé. Léon XIV souhaite une église attentive à tous ceux qui souffrent, a-t-il expliqué. Une promesse pour l'avenir, en attendant un premier voyage apostolique dans un pays d'Afrique. Éric Sénanc, Rome, RFI.
Léon XIV qui s'était donc rendu à plusieurs reprises en RDC et pas seulement à Kinshasa. Robert Francis Prévost s'était aussi rendu dans le Bas et le Haut-Wélé dans la paroisse de Dungu, à plus de 2000 km de la capitale. Un voyage en toute simplicité que nous racontent plusieurs témoins qu'a pu joindre Amélie Tulé. Témoignage à lire sur notre site internet www.rfi.fr. Léon XIV et ses liens avec l'Afrique, on en parle aussi ce matin avec notre invité, l'universitaire béninois Florentin Nangbé. Il a répondu aux questions de Laurent Corot, un entretien à retrouver et à réécouter sur RFI.fr et sur notre application RFI Pure Radio à l'onglet RFI Afrique. Les enjeux de pauvreté également au cœur des préoccupations du nouveau pape, alors que l'ONU s'alarme ce matin à propos de l'aggravation de la faim en Afrique de l'Ouest et centrale, où les besoins atteignent des niveaux records selon le Programme Alimentaire Mondial. Le PAM tire la sonnette d'alarme, plus de 36 millions de personnes ne mangent pas à leur faim, un chiffre qui pourrait dépasser les 50 millions pendant la période dite de soudure du mois de juin au mois d'août. Le PAM qui indique avoir un trou de plus de 700 millions de dollars dans son budget pour venir en aide à ces populations vulnérables dans un contexte global de baisse des aides américaines depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Jones Demachiangar est porte-parole du Programme Alimentaire Mondial en Afrique de l'Ouest et Centrale. Pour lui, il y a urgence.
Les projections indiquent que la période de juin à août, qu'on appelle communément la période de soudure où la faim atteint vraiment le niveau le plus élevé, il y aura à peu près plus de 52 millions de personnes qui seront dans cette situation-là. Et parmi elles, près de 3 millions atteindront un niveau un peu plus sévère. C'est une aggravation. Si l'on compare, par exemple, à l'année 2019, il n'y a que 4% de la population qui était dans cette situation d'insécurité alimentaire. Aujourd'hui, nous avons 12% de la population. Et ça, c'est une situation qui affecte particulièrement la couche des populations forcées au déplacement à cause des conflits. Elles n'ont pas accès à leurs moyens de subsistance et ne dépendent que de l'assistance du Programme alimentaire mondial. À un moment où nous faisons face à des sérieux problèmes de financement qui font qu'on n'est pas malheureusement en mesure de répondre adéquatement à leurs besoins comme il se doit.
Des propos recueillis par Wely Diallo en RDC. Aussi, le Bureau des Affaires Humanitaires de l'ONU s'alarme. L'OCHA qui annonce une réduction de près de la moitié de ses objectifs d'aide dans le pays. Là encore à cause de la suspension de l'aide américaine. L'appel de fonds lancé en février dernier pour mobiliser plus de 2,5 milliards de dollars est resté lettre morte. Une situation aux conséquences qui pourrait s'avérer dramatique, Patient Ligaudi.
La tendance était déjà inquiétante et elle vient de se confirmer. À la fin du mois d'avril, seuls 9% des fonds demandés avaient été mobilisés. C'est moitié moins que l'année dernière, à la même période. La raison principale, la suspension de l'aide américaine. Washington finançait à lui seul 70% du budget humanitaire. Conséquence directe, des secteurs vitaux comme la santé, la sécurité alimentaire ou encore la réponse aux urgences sont aujourd'hui en danger. Et face à cette chute brutale des financements, l'ONU a dû faire des choix. Une liste rouge a été dressée et seules les interventions jugées les plus urgentes seront maintenues. Ce sont des millions de personnes qui risquent ainsi de ne plus recevoir d'aide. L'ONU veut concentrer les efforts sur les plus vulnérables, optimiser l'impact avec ce qui reste. Autre priorité désormais, trouver de nouveaux partenaires. Gouvernement, bailleurs de développement, secteur privé, tous sont sollicités. Et puis cette crise pose aussi la question des responsabilités locales. L'ONU appelle l'État congolais à s'impliquer davantage en apportant un soutien logistique, en facilitant l'accès aux zones touchées et en renforçant la coordination au niveau provincial. Un appui essentiel pour que les humanitaires puissent se concentrer sur les urgences et n'aient pas remplacer les services publics.
Explication de Patient Ligaudi. L'actualité congolaise, c'est aussi cette visite de Vital Kamerhe à Kampala. Le président de l'Assemblée nationale s'est rendu en Ouganda avec une délégation de députés congolais. Objectif de ce déplacement de deux jours, renforcer la diplomatie parlementaire entre les deux pays dans un contexte de méfiance du côté de Kinshasa. RFI, 8h37 à N'Djamena, la chute d'Idriss Youssouf Boy au Tchad. L'ancien directeur de cabinet du président, condamné à 5 ans de prison et à une amende d'1 million de francs CFA, mais aussi pour son accusateur, l'homme d'affaires Abou Hachim Bouder. Idriss Youssouf Boy, ancien bras droit du président Mahamat Idriss Déby, condamné donc pour corruption passive. Le juge qui a accédé aux arguments du procureur, selon lesquels il aurait perçu plusieurs milliards de francs CFA du plaignant en échange de l'obtention de marchés publics. La justice a en revanche écarté les charges de trafic d'influence et d'abus de fonction. Le limogeage d'Idriss Youssouf Boy avait déjà à l'époque fait l'objet d'une bombe au Tchad. Sa condamnation est encore plus retentissante. Les raisons de sa chute expliquées par Edras Dikoumena.
Officiellement, l'ancien tout-puissant chef de cabinet du président tchadien paye le prix d'une simple affaire de corruption, même si les montants en jeu sont conséquents. Il a été accusé par Hachim Bouder, un ancien maire d'Amdjaras, et l'un des principaux bénéficiaires de contrats publics de construction d'infrastructures, notamment de l'Enedi, la province d'origine des Itno. Il y a dans le clan au pouvoir de plus en plus de divisions et de mécontentements, notamment par rapport à la question soudanaise ou aux infrastructures non réalisées, malgré des dizaines de milliards de francs CFA décaissés. Mahamat Idriss Déby a décidé de lâcher son bras droit, d'autant que Youssouf Boy est très détesté dans les milieux du pouvoir, notamment pour ses origines selon le source, ce qui les a calmés pour le moment, ajoute-t-elle. En plus, le président tchadien l'avait déjà limogé, emprisonné avant de passer l'éponge et de le ramener à ses côtés dans une autre affaire de détournement de fonds en 2022. Mahamat Idriss Déby n'avait pas alors hésité à le mettre en garde publiquement contre une récidive dans son autobiographie de Bédon à président parue l'année passée. Mais en réalité, ce qui a été décisif dans cette affaire selon le source, ce sont les Émiriens qui ont exigé la tête de Youssouf Boy après avoir constaté qu'il avait détourné une partie de leur aide. Les sommes en jeu sont si importantes que Mahamat Idriss Déby s'est résolu à le sacrifier, assure-t-elle.
La chute d'Idriss Youssouf Boy et les détails de sa condamnation, également à retrouver sur notre site internet. Article signé de notre correspondante à N'Djamena, Nadia Ben Mafoud. En Centrafrique, deuxième nuit derrière les barreaux pour le journaliste Landré Ulrich Gueman Gokpele, directeur de publication du quotidien de Bangui. Il a été arrêté jeudi après-midi par la gendarmerie pour des motifs encore flous. La presse locale dénonce une arrestation arbitraire à motif politique et déplore l'absence d'explication du parquet sur les raisons de cette interpellation. La Centrafrique toujours, où le parquet a cette fois-ci communiqué après le transfert à Bangui du rebelle Armel Sayo, transfert en provenance du Cameroun qui s'est effectué dans la nuit de lundi à mardi. Le procureur de la République précise que le chef du groupe Coalition militaire pour le salut du peuple et le redressement est poursuivi pour la associations de malfaiteurs, rébellion, crimes de guerre, crimes contre l'humanité et atteinte à la sûreté de l'État, et ce pour une attaque commise par ces hommes contre l'armée en février dernier. Le procureur qui confirme que plusieurs autres personnes ont été arrêtées en lien avec cette affaire, sans dire précisément combien. Et puis enfin, African Parks dans la tourmente. Cette ONG de conservation de la nature est basée à Johannesburg et elle représente 13 pays allant du Tchad à la RDC en passant par le Bénin. Elle est reconnue pour sa gestion de parcs nationaux dans des zones souvent dangereuses. Eh bien, African Parks, aujourd'hui accusée de violation des droits de l'homme en République du Congo, et elle a même dû admettre à la suite d'une enquête d'un cabinet indépendant qu'une partie de ses accusations était avérée, Claire Bargelès.
L'organisation a reconnu que dans certains cas, des violations des droits humains ont été commises, sans plus de précision sur les cas en question. Nous regrettons profondément la douleur et la souffrance causées aux victimes, poursuit-elle dans un communiqué. Les accusations sont graves. Des membres du peuple Baka affirment que les rangers d'African Parks leur ont fait subir des violences, des tortures et même des viols dans le cadre de leur mission de protection du parc national d'Odzala-Kokua, qu'ils gèrent depuis 15 ans en accord avec le gouvernement de Brazzaville. Ces victimes sont soutenues par l'organisation Survival International, qui avait également alerté il y a plusieurs années sur les atteintes aux droits de l'homme dans le bassin du Congo par des éco-gardes liés à des projets financés par le WWF, qui a depuis changé ses pratiques. African Parks affirme désormais prendre les mesures nécessaires, reconnaissant des défaillances. Ce n'est pas la première fois que l'ONG, longtemps présidée par le prince Harry, qui siège toujours à son conseil d'administration, est critiquée pour son modèle de conservation de la nature, qualifié de forteresse, très exclusif pour les populations locales. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI.
Et c'est ainsi que se termine ce journal RFI. Vous nous suivez aussi sur notre chaîne YouTube. Un petit coucou à Fadel Diagne depuis le Gabon et à Emmanuel Kansenwe Milumbu qui salue l'arrivée du pape Léon XIV depuis la RDC. Vous pouvez évidemment commenter toutes nos informations en direct sur notre chaîne YouTube. Toutes nos informations à retrouver également sur notre site internet RFI.fr. RFI à Paris comme à Johannesburg. Il est 9h42. Vous retrouvez Julien Coquelrem pour la suite et la fin de RFI Matin.